Chali m'était conté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, nous allons continuer à parler à livre ouvert, en quelque sorte. Nous étions arrêtés aux images, donc à cette fameuse enluminure. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique utilisée à ce moment-là. Sachez qu'elle est assez complexe et que n'importe qui ne peut pas asseoir une feuille d'or sur un parchemin sans connaître évidemment parfaitement les produits et la technique à utiliser. Ce qui m'intéresse peut-être aujourd'hui, c'est la fonction de l'enluminure. Vous vous souvenez, j'avais regretté que au 19e, au début du 20e, j'avais regretté qu'on avait découpé assez sauvagement les enluminures pour en faire des tableaux à part entière et les distinguer sans tenir compte du texte. Or, il faut considérer que cette image, c'est une aide à la lecture. Et ça peut commencer avec une lettrine. La lettrine, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est l'initiale qui va être historiée. Alors, elle peut être historiée d'une façon très, très simple, avec des motifs géométriques, mais aussi d'une façon extrêmement complexe et devenir un véritable tableau également. En tous les cas, l'image peut être un repère dans le texte et constituer une ponctuation. N'oubliez pas que aussi, pendant très longtemps, l'enseignement se faisait oralement, pour la bonne raison que peu savaient lire. Donc les étudiants de l'université écoutaient. Si vous voulez, c'est un peu la même chose que le cinéma par rapport à la littérature. Donc on utilise un autre moyen pour faire passer du sens, en quelque sorte. Dans l'Antiquité, les différentes parties d'un texte étaient séparées de ce qu'on disait en grec, les paragraphos, c'est-à-dire un petit trait qui était inséré entre les lignes. Ou alors on mettait simplement ce qu'on appelle la coroniste, c'est-à-dire une espèce de crochet que l'on reportait en marge de la première lettre. Au Moyen-Âge, on assiste progressivement à la mise en vedette de la fin et du début du texte. Donc la première lettre se métamorphose. Alors ça peut, je le disais tout à l'heure, prendre des formes tout à fait étonnantes, un corps de poisson, peut-être une croix, un personnage, une gargouille, un motif celte, enfin, on va voir. Les corps sont souvent parfois allongés d'une façon non naturelle, parce qu'il faut bien que le diable ou le serpent s'inscrive dans la lettre O, donc on va lui faire faire des contorsions tout à fait contraires évidemment à la nature. Cet ornement peut être une représentation humoristique, c'est ce qu'on appelle les drôleries. Très souvent, autour du parchemin, on a des petits singes qui sont montés sur des escargots et qui lancent un assaut, une espèce de tournoi avec une autre bébête qui est de l'autre côté. C'est assez amusant et c'est un peu, on peut dire, c'est un moyen aussi de stimuler la mémoire en même temps. L'enseignement par l'image, vous le connaissez. C'est celui qu'on a utilisé très longtemps dans les cathédrales, dans les églises, oui. Travers les statues, travers les vitraux, un peu plus tard, etc. Nous, on enseigne par l'image à des gens qui ne savent pas lire. Et donc là aussi, l'image a cette fonction quand on ouvre un livre. Donc on peut très bien ouvrir un livre et ne pas savoir lire. Et cette image a aussi des codes. Il faut savoir que la position, par exemple, selon la position de la main d'un personnage, on va avoir un sens très précis que les gens du Moyen-Âge vont comprendre. Par exemple, si vous avez les deux doigts, c'est-à-dire, je regarde sur ma main l'index et le majeur levé, la main en l'air, c'est pas pour bénir, c'est la volonté de s'affirmer, de montrer son autorité. Si les doigts sont repliés vers la paume, je parle des doigts de la main gauche, eh bien, ça veut dire que je suis en train de discuter, que je suis en train d'argumenter. Si le doigt est impérativement pointé horizontalement, c'est pas un ordre, c'est plutôt j'accepte. Ça peut être aussi un signe. Rappelez-vous l'archange Gabriel qui a l'index levé et qui indique que le message vient du haut et va redescendre vers Marie. Puis il y a des choses assez coquines. Lorsqu'un homme tient une femme par le poignet, je ne dirais pas quoi. Ça veut dire quelque part qu'il y a une impression de luxure, alors qu'il est encore plus développé si jamais il lui prend le menton. Donc, dans une enluminure, quand vous voyez donc cette scène, eh bien, pour nous, bon, on trouve ça bizarre, mais là aussi, on a besoin de code, en quelque sorte, pour continuer. Parfois même, l'enluminure reprend le texte au pied de la lettre. Il y a par exemple dans un psaume, je crois que c'est le 77, on dit que de la bouche qui touche au ciel et de la langue va jusqu'à la terre, etc. Eh bien, on voit deux personnages qui, de la bouche, touchent avec leur langue du ciel à la terre, ce qui est assez expressif. Alors, la taille des personnages, donc leur attitude, leur position, ou leur couleur peuvent être des signes directement perceptibles par le lecteur. Je pense déjà avoir dit que la pigmentation qui a été utilisée, la nature du pigment utilisé, correspond aussi à quelque chose d'important pour l'homme du Moyen-Âge ou de la Renaissance. S'il a devant lui un personnage en rouge cochenny, ben il sait automatiquement, compte tenu du prix de ce pigment, qu'on est devant un personnage important, etc. Selon l'utilisation de la nature du bleu, s'il s'agit du lapis lazuli, s'il s'agit du cobalt, etc., il aura un degré de valeur qui va s'exprimer de cette façon-là. Alors, ne parlons pas évidemment de la feuille d'or, hein, qui a pris sa place très tôt dans la minure, en arrière-plan en général. Et là, on imite simplement le monde byzantin. Hein. Alors, ces livres qui sont en parchemin, on n'est pas encore aux livres en papier. Hein. Ces livres, je l'ai dit tout à l'heure, sont nécessaires pour l'enseignement. Hein. J'ai évoqué bien sûr le livre précieux, le livre rare, le livre qui fait partie du trésor royal ou épiscopal. Parlons maintenant des livres dont les professeurs ont besoin pour préparer leurs cours. Hein. Donc, soit ils vont les acheter, alors le livre c'est une fortune, mais ils essayent la plupart du temps d'aller dans une bibliothèque non universitaire hein, qui va prêter des livres. C'est une institution qui se met en place dès le XIIIe siècle. Seulement, si j'emprunte un livre, bah, plus personne ne peut le faire. Ce livre, en général, est unique. Alors, comment faire? Eh bien, il y a un système tout à fait astucieux qui va se développer pour copier les livres. Si je vous donne un livre à copier, vous allez partir chez vous avec le livre en entier. Vous allez tirer la langue pendant des jours et des jours pour copier le livre et vous allez priver donc par ailleurs de l'exemplaire que vous êtes en train de copier. D'ailleurs, si je prends le mot exemplaire, c'est que le livre de base, on l'appelle exemplaire. Il a été lu, relu, corrigé. C'est un peu le maître étalon du texte, de la traduction ou de la composition. Donc cet exemplaire, eh bien, on ne va pas le relier. On va le laisser sous forme de cahier de 4, 5, 6 feuilles. Donc, ça sera facile à copier, ça va être facile à diviser. Et ainsi, 50 personnes vont pouvoir en même temps copier chaque cahier. Et à la fin de la journée, le livre aura été recopié. Autre avantage également, si c'est le chapitre 22 qui vous intéresse, eh bien, vous n'empruntez que le cahier qui correspond au chapitre 22. Donc, la relure, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel, en quelque sorte. Et il faudra attendre des siècles pour qu'on achète les livres reliés dans l'ensemble, je dirais, de la clientèle lectrice. Pour la composition, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer plus loin notre exposé, en quelque sorte. Je voudrais quand même parler d'une écriture un peu particulière. L'écriture, c'est un code, hein, bien sûr, hein, vous l'admettez parfaitement, mais je pense à l'écriture musicale. Là, on se retrouve dans une autre forme d'écriture. Vous avez un air qui vous arrive dans les oreilles. Vous avez envie, évidemment, de le faire partager. Ou alors, vous avez envie de vous en souvenir. Vous avez une super mélodie qui vient de vous survenir entre deux rêves. Et vous avez envie de conserver, évidemment, cette mélodie. Comment faire? À l'époque, il n'y a pas de magnétophone. Vous n'allez pas vous mettre à chanter. Donc, il faut inventer les codes. Et je dirais que déjà, depuis l'Égypte, ces codes existaient pour indiquer aussi aux autres ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, est-ce que la voix doit monter, descendre, etc. Et chez les Égyptiens, chaque note, en gros, correspondait à des positions de main différentes. C'était une espèce de méthode gestuelle, en quelque sorte, qui permettait d'indiquer le sens de la mélodie. Non seulement à une personne, mais à un orchestre, éventuellement. C'était un chef d'orchestre, mais plus encore, il faisait le travail d'être aussi une partition en lui-même, en quelque sorte. Et puis, petit à petit, chez les Grecs, on va utiliser les lettres. Alors, sans rentrer dans les détails, la ligne supérieure indique en général des signes de durée, une lettre, donc une note qui va être tenue plus ou moins longtemps. La seconde ligne, en général, c'est la hauteur des notes. Alors, c'est au-dessus, en dessous de la précédente. La troisième, le texte. Et la lettre en bas indique en général... alors, tout en bas de la portée, je dis portée, mais ce n'était pas des portées, vous vous en doutez bien. Mais la dernière note en bas, couchée sur le côté, désignait l'élévation ou, au contraire, la descente d'un demi-ton, qui correspond en gros à nos dièses, à nos bémols. Les Romains vont utiliser, eux, des notes qu'on continue à utiliser. Hein, le « la », la note « la », c'est bien la lettre « a », hein, « b », « c », etc. Eh bien, c'est une invention de nos ancêtres romains. Pardon. Au Moyen-Âge, on va quand même essayer d'utiliser le mode grec, ce qu'on appelle les neumes. Les neumes, ça se présente un peu comme des accents ou des apostrophes qui vont être plus ou moins torturés selon, évidemment, la hauteur du son et la virgule, en général, qui désigne non pas la nature du son, comment de me dire, ça ne va pas désigner le « la », par exemple, ça désigne simplement que la note qui va arriver sera au-dessus ou en dessous. Vous voyez, c'est l'intervalle, en quelque sorte, qui est désigné. Le point, lui, dit... Alors, la virgule dit qu'il faut monter d'un ton. Je dis un ton pour simplifier mon propos. Et puis, le point, ça veut dire qu'on va descendre d'un ton. Et ça, on va le passer au-dessus du texte. Pas forcément facile, évidemment, à interpréter. Et puis, arrivera, évidemment, la notation carrée. Oui. Hein, donc, c'est lié, bien sûr... une écriture qui indique là aussi des hauteurs relatives des notes aiguës, c'est en haut, bas, c'est en grave, c'est une notation géographique, hein, mais encore comme notre notation actuelle.
C'est une portée déjà.
Voilà. Bien, on a déjà un début de portée, pas aussi net que la nôtre, il n'y a pas forcément le même nombre de livres. Au 13e, en tous les cas, la plume qui remplace le calame va faire que les signes vont être plus gros, le point va être remplacé par un carré noir et bien sûr, avec une plume, vous faites plus facilement des carrés et des hampes qu'autre chose. Et puis va arriver, évidemment, ce qu'on appelle la solmisation. C'est-à-dire que on dit que c'est Guido d'Arezzo qui a remplacé les lettres par des notes en utilisant l'hymne à Saint-Jean-Baptiste, oui. Le début de chaque mot, qui va donner, évidemment, ut, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, ça... Mais c'est simplement, je crois, important de montrer que cette codification n'intéresse pas simplement à l'écriture, transcription de notre parole, en quelque sorte. Pour la production des manuscrits, bien sûr, jusqu'au XIIe, ce sont essentiellement des manuscrits qui sont copiés dans les monastères. C'est un véritable travail organisé. Vous rappelez-vous le nom de la rose, où on voit les copistes au travail, encore que chez les cisterciens, ils étaient très souvent isolés, mais enfin bon, peu importe. Donc ils sont dans ce bâtiment qu'on appelle l'Armarius. Ils ont un chef, l'Armarius, ou l'Armarius, si vous préférez. Ils ont un sous-chef, le premier calligraphe. Enfin, c'est aussi, là aussi, un atelier très organisé, très hiérarchisé. Et puis, bien sûr, il va y avoir des scriptoria, trésors, très connus. Il y aura l'excellence et puis il y aura évidemment ceux qui vont se contenter du tout venant. Alors l'Armargus, je répète, c'est le deuxième personnage de l'abbaye. Hein, c'est pas n'importe qui, celui qui va diriger l'ensemble des moines copistes. Hein. Et il a souvent sa place de premier chantre, etc. C'est le premier calligraphe qui s'occupe, lui, des élèves. Alors, donc, c'est une production de plus en plus importante qui va s'établir à partir du XIIe siècle dans les villes qui possèdent une université. Donc, on va dire que petit à petit, la copie du livre va quitter progressivement le monastère pour venir s'installer en ville. Et autour de la Sorbonne, créée, comme vous le savez, enfin, le collège de la Sorbonne créé par Jean, qui habitait Sorbonne, tout simplement. Autour de la Sorbonne, donc, on va trouver des ateliers plus ou moins spécialisés, l'enluminure, dans la rubrique, dans aussi la diffusion. Et donc, c'est une véritable corporation qui voit le jour. Ça ne veut pas dire pour autant que les textes deviennent des textes laïcs. Non, il y a encore, bien sûr, beaucoup d'exemplaires de livres médiévaux qui sont des bibles ou des évangélières. J'ai là sous les yeux une liste d'un scriptorium avec un certain nombre de manuscrits qui sont classés. Et voilà ce qui est sorti de cette abbaye. Tout d'abord, des psautiers. Hein. Bon, en gros, ils contiennent 150 psaumes qui sont nécessaires à la célébration des offices. Souvent, ils sont précédés d'un calendrier hein, et d'une liste de saints avec les jours de fête, etc. C'est aussi, en quelque sorte, l'organisation de l'année ou de la journée pour le monastère. Il y a les livres d'heures. Alors là, on en trouve de plus en plus, car ils vont ensuite être offerts aux laïcs. C'est de dévotion particulière, hein, une espèce de... C'est le petit bréviaire de chacun, en quelque sorte, mais là, qui est destiné en général à un public très riche. Donc, on peut dire tout simplement que ça correspond aux heures de dévotion des religieux. Il peut aussi comporter, de temps en temps, des extraits de l'Évangile, et lui aussi, un calendrier et des prières. Prières souvent dans les heures à la Sainte Vierge. Il y a des livres de la liturgie chantée. Alors là, ce sont des ouvrages énormes. Pour en avoir soulevé, je peux vous dire que ça pèse un âne mort. Je ne sais pas combien pèse un âne mort, comme on dit, jamais pesé. Mais c'est très lourd parce qu'ils sont très grands. N'oubliez pas que ces livres de liturgie chantée doivent être lus par tout le monde en même temps. Donc, vous imaginez tous les moines réunis autour du pupitre. Donc, il faut des livres de très grande taille pour que chacun puisse... lire le graduel ou l'antiphonaire. Alors, le graduel, ce livre de chant à l'usage du chœur, et l'antiphonaire, lui, c'est l'usage des chantres, hein, surtout. Il y a la vie des saints. Alors, bien sûr, c'est le récit de la vie des saints, de leurs miracles, de leurs martyrs. Et alors, l'ouvrage le plus connu que vous pouvez toujours trouver, qui est intéressant si vous vous intéressez à l'histoire en général, il y a un livre incontournable qui s'appelle « La légende dorée ». Et donc là, il y a le répertoire de tous les saints de l'Église chrétienne avec leur martyrs, leurs miracles, enfin, etc. Et vous y trouvez là une source d'inspiration importante qui vous permet de mieux comprendre les images du Moyen-Âge. Ah oui, ça, je l'ai vu dans Jacques de Voragine, c'est parce qu'il lui arrivait telle et telle chose, etc. Donc c'est un ouvrage de base. Alors, nous allons passer maintenant vers des textes plus laïques. Je pense à ce qu'on appelle les histoires et chroniques. Alors, ce sont en général des historiens de l'Antiquité qui sont traduits, comme Hérodote, Tite-Live, ou alors des grandes légendes, pensez à la guerre de Troie, ou des légendes plus contemporaines. Je pense aussi, bien sûr, aux chroniques de Froissart, là, qui sont tardives, puisqu'elles sont du XIVe siècle. Dans les textes de l'Antiquité, ceux qui ont beaucoup de succès auprès du public laïque, ce sont les œuvres d'Ovide, d'Horace ou de Virgile. Le théâtre de Terence, est aussi apprécié, la philosophie de Platon et d'Aristote. Mais là aussi, il faut savoir que les traductions sont très différentes. Il est arrivé à ces textes de l'Antiquité, ce qui arrive dans ce qu'on appelait, vous vous souvenez, ce jeu qui consistait à, on appelait ça le téléphone arabe, je crois, Et on se passait de bouche à oreille une phrase, et la phrase passait évidemment de l'un à l'autre, et puis au bout de la dixième transmission, le mot qu'on avait donné ou la phrase qu'on avait donnée au départ n'avait strictement plus rien à voir avec le début. Eh bien, il se passe avec les manuscrits à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'à force de copier et recopier, de faire des erreurs volontaires ou pas, etc., on assiste à des choses assez délirantes quant aux traductions de Platon ou d'Aristote. D'ailleurs, au Moyen-Âge, je dis toujours, on ne peut pas parler d'Aristote. Il faut parler des Aristotes, selon telle ou telle acception ou utilisation. Il y a quand même des livres, non pas tout à fait de sens naturel, mais qui le voudraient bien, qu'on appelle les bestiaires. Donc là, on va dessiner les animaux familiers que nous connaissons. Et puis, on est quand même au Moyen-Âge et l'imagination est toujours aussi reine et on va dessiner des créatures fabuleuses. Pensez aux gargouilles de Notre-Dame, hein, entre autres. Mais vous viendrez voir aussi les gargouilles qui se trouvent à la chapelle Sainte-Marie de Chaly, qui, si elles sont tardives, sont aussi tout à fait intéressantes. Il y a les herbiers. Alors, les herbiers se situent un peu au milieu de différentes sciences, hein. Alors, ça peut être considéré effectivement comme une base de la botanique, hein, bien sûr, mais très souvent, c'est beaucoup plus une base de la médecine, parce que les plantes servent à se soigner, tout simplement. Hein. Dans ces herbiers, on va même trouver des conseils culinaires. On va trouver également, correspondant à ces plantes, des chants, des danses, des lectures. Et ces chants, ces danses, ces lectures font partie également de la médication. C'est-à-dire qu'en même temps que vous prenez votre potion, n'est-ce pas, eh bien, vous devez pratiquer un rituel, tourner trois fois autour de la chaise. L'aspirine forcera beaucoup mieux. C'est pour plaisanter, bien sûr, je vais dire ça, mais c'est un peu dans ce sens-là. Arrive aussi, puisqu'on est dans le cadre d'une production là, de plus en plus laïque, les romans. Alors, bien sûr, celui que vous connaissez bien, la chanson de Roland, les chevaliers de la table ronde, hein, qui ont leur succès, puisque les sagas actuelles ne cessent de piller, entre guillemets, là, les sagas médiévales, Tristan et Isolde, etc. Et puis, bien sûr, les livres purement d'études. Donc, on va avoir des livres de droit, ça va être très spécialisé, des livres de grammaire, des livres de rhétorique, de dialectique, d'arithmétique, de géométrie, de musique ou d'astronomie. Ce sont d'ailleurs les grandes divisions du savoir universitaire que je viens ainsi de lister.
Médecine aussi ?
La médecine, non, elle n'est pas considérée dans le cadre de l'étude universitaire.
Ah, d'accord.
Mais par contre, on a des universités comme Montpellier qui vont se spécialiser, bien sûr, à travers, évidemment, les sciences. Il va y avoir aussi des manuscrits qui vont se diriger vers la connaissance du monde qui nous entoure. Des terres qui, petit à petit, vont être conquises, d'abord par les Arabes, qui vont venir jusqu'à nous, comme vous le savez, et qui vont nous ramener vers, qui vont ramener vers l'Europe occidentale, un certain nombre de découvertes qui sont importantes. Et le rôle des Arabes a été important aussi, puisque ils vont nous amener des textes qui, en grande partie, avaient disparu dans les incendies de Byzance, c'est-à-dire les textes grecs antiques. On a en gros deux voies. On va avoir une voie terrestre de Byzance jusqu'à... Byzance, c'est Constantinople. De Byzance jusqu'à chez nous. Et puis on a une deuxième voie qui contourne la Méditerranée, qui sera la voie arabe, en quelque sorte, qui va remonter par l'Espagne. Et on va voir que des savants arabes vont rédiger des ouvrages de logique, de physique, de mathématiques, d'optique, et de médecine, puisqu'on parlait de médecine, vous avez raison, on va voir des descriptions d'opérations de l'œil tout à fait précises et qui correspondent à des opérations qu'on fait encore maintenant. Donc là, on a un vrai savoir qui nous arrive du Moyen-Orient par l'intermédiaire des savants, que ce soit Avicenne, Averroès ou autres, qui en général reprennent les travaux des philosophes grecs. Val d'Averroès, il est surtout, lui, le suivant d'Aristote. Par contre, s'ils n'ont pas tout à fait la même religion, malheureusement, on va les voir persécutés et leurs travaux, parfois, vont être aussi détruits. Il y a quelques exemples, hélas, tout à fait déplorables, mais n'oubliez pas qu'en France, il se passait la même chose et que la persécution, entre autres, des Juifs n'a cessé, évidemment, tout au long du Moyen-Âge. Ce qui est assez curieux quand on regarde les livres de médecine arabe du 15e siècle, c'est qu'il y a des enluminures. Et alors, on vous montre comment réduire une fracture. Alors, vous voyez le pauvre gars qui est coincé entre deux poteaux. Et on va tirer sur la jambe pour réaligner les os et pouvoir ensuite réduire cette fracture. Et donc, le dessin est tout à fait pertinent et nous explique parfaitement, évidemment, ce travail de réparation. Je ne sais pas si on procède de la même façon maintenant, mais en tous les cas, c'est très parlant, en quelque sorte.